Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. C'est François Allais, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, retrouvez un épisode que j'ai beaucoup apprécié en 2021. J'ai reçu Tigran Sedhu, le cofondateur de Big Mama, enseigne de restaurant que vous connaissez sûrement. Avec son associé, ils ont créé un géant de la restauration. Dans cet épisode, découvrez toute leur histoire. Je vous laisse avec cette rediffusion, très belle semaine et à mercredi prochain. Ce sera la dernière rediff avant la nouvelle saison, soyez prêts. Salut Tigran.
Salut François, bonjour tout le monde.
Alors, je suis super content de t'avoir dans ce podcast parce que je suis déjà un grand fan de Big Mama, de l'univers Big Mama et puis de tous ces restaurants. Donc, c'est vraiment, vraiment très cool de t'avoir dans ce podcast. Chaque début de podcast, c'est toujours cette question, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre ?
Alors, s'il faut raconter 26 ans en quelques secondes, on va essayer de le faire. Moi, ce qui m'a un peu structuré, on va dire, dans mon parcours, c'est déjà, je suis le sixième d'une grande famille. Je suis le sixième enfant de ma famille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné et structuré. J'ai été vachement façonné par mes frères et sœurs. On a eu quelques coups durs familiaux parce qu'on a perdu tous notre maman assez jeune. Qui a été longtemps malade, très longtemps malade, et puis qui malheureusement est parti quand j'avais 17-18 ans. Et puis on a perdu un frère quelques années après, qui s'est suicidé. Donc on a eu des sales coups de la vie familiaux, et pour autant c'est un noyau et un cercle qui m'a énormément accompagné, et je pense que ces événements-là aussi m'ont nourri, et j'en parle vraiment ouvertement, parce que c'est des choses difficiles de la vie qui m'ont forgé. Et c'est vrai que la philosophie qu'on a aujourd'hui avec Big Mama, avec la façon dont on voit les choses d'un point de vue RH, d'un point de vue construction de notre culture d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette histoire personnelle. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc voilà, donc ça, c'est une des parties de ma vie d'enfant. J'ai grandi, je suis né dans le sud de la France, j'ai grandi quelques années dans le sud de la France, puis ensuite je suis venu à Paris vers l'âge de 6-7 ans, dans lequel je suis resté jusqu'à mes 35 ans à peu près. J'ai rencontré ma femme assez jeune, quand j'avais 20-21 ans, qui est ma plus belle réussite, la plus belle réussite de ma vie, parce qu'elle est extraordinaire et qu'elle m'a énormément accompagné, elle m'a énormément fait grandir personnellement. Elle a été aussi un pilier pour l'aventure Big Mama. Les femmes d'entrepreneurs sont toujours très, très importantes. Il y a toujours une femme derrière ou un homme derrière une entrepreneuse ou un entrepreneur. Et ça a clairement été le cas sur Big Mama avec Erika. On attend notre troisième petit enfant. Et donc, on a une belle famille avec... j'ai un fils Melchior qui a 4 ans, une petite fille Olympia qui a 2 ans et une troisième petite fille qui va arriver d'ici quelques mois.
Super. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu étais justement enfant, ado, et comment, on va dire, t'as vécu ces deux événements tragiques, comment tu t'as fait justement pour les passer, on va dire, tu vois.
Je pense que j'ai pas énormément changé en termes de caractère depuis que je suis petit. J'ai toujours été assez compétiteur. Je pense que ça c'est un trait qu'on a beaucoup avec Victor, mon associé. Une des valeurs de Big Mama, c'est l'excellence, et on s'est toujours donné l'ambition et la vision de construire les meilleurs restaurants au monde. Dans chaque ville où on va, dans chaque ville où on est allé, on avait l'envie et de se dépasser, d'être les numéro uno, comme on dit chez Big Mama. Et ça vient clairement de mon trait d'enfance où j'ai, j'étais assez mauvais joueur, je n'aimais pas perdre. Qui venait aussi beaucoup du sport. J'ai grandi aussi beaucoup avec le sport. Mon papa m'a souvent inculqué les valeurs du sport et les compétitions qui vont avec. Et ensuite, c'est vrai que ces deux événements familiaux que j'ai rapidement abordés, déjà ma maman, entre 10 ans et 17 ans, je l'ai vue pas mal souffrir de sa maladie. Donc c'est quelque chose qui vous rend... je me suis forgé une carapace, je pense beaucoup avec ça, et une capacité à absorber le contexte, les données extérieures et le stress déjà assez jeune. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'essaie toujours de m'appuyer en étant fondateur, en étant patron d'entreprise aujourd'hui, parce que être entrepreneur, c'est être libre. On a une liberté extraordinaire, mais on a une charge mentale permanente, on a un stress permanent. Et c'est vrai que j'arrive plutôt à bien gérer ce stress-là. Et donc, c'est peut-être que cet événement-là m'a aidé. J'ai grandi avec des frères et sœurs qui étaient plus âgés. Et donc, j'ai toujours été tiré vers le haut, vers le côté social. Quand j'étais petit, j'étais toujours dans les pattes de mes grands frères et sœurs, avec leurs potes, avec leurs mains. Et ça m'a donné aussi cette envie d'un relationnel très fort. Big Mama est rentré dans la restauration. Ça a été aussi la volonté d'accueillir des gens, de créer des lieux d'hospitalité et des lieux de vie hyper, hyper importants. Et ça, je l'ai vécu. Il y avait toujours des milliards de personnes chez moi. Il y avait toujours, c'était toujours le joyeux bordel à la maison. Et Big Mama est un joyeux bordel quand on pousse les portes. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a une âme, il y a une énergie absolument incroyable. Et mon frère, ça a été encore une autre histoire. Ça a été était probablement l'épisode le plus douloureux de ma vie. C'était un frère avec qui j'étais très très proche. C'était mon meilleur ami. On passait notre vie ensemble. On partait toutes nos vacances ensemble. Et il s'est suicidé parce qu'il était, j'ai jamais vraiment su parce qu'il a rien laissé derrière lui, et ça a été assez brutal. On n'a pas trop eu de signes avant-coureurs, mais ce que je savais, c'est qu'il n'était pas très heureux dans son boulot. Et donc depuis, c'est vrai que ce moment-là, je me dis deux choses. Je me dis un, faut être heureux dans ce qu'on fait. Alors ça peut paraître bateau quand on le dit, mais ça prend tout son sens dans mon expérience personnelle puisque j'ai eu le retour de boomerang en pleine face de quelqu'un qui était malheureux dans son travail. Et donc, j'essaye, un, de m'approprier cette devise, et j'essaye surtout de le transmettre autour de moi et de faire très attention à qui n'est pas épanoui et qui n'est pas heureux chez Big Mama. Ça, c'est je me suis toujours occupé des RH chez Big Mama, et je pense que c'est quelque chose que j'ai un œil très 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 attentif là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a développé une attention, je pense, assez particulière aux gens, dans le sens où il y a peut-être des gens parfois autour de toi qui disent, tu leur demandes si ça va, ils disent ouais, moyen, pas trop en ce moment, et puis en fait ça te passe un peu au-dessus de la tête. Tu dis bon bah ça va aller, il est pas en train de mourir, donc de toute façon il va s'en sortir. Et en fait, j'ai un regret avec mon frère, c'est qu'en fait, c'est de ne pas l'avoir pris par la main et lui avoir dit un jour, en fait, je vois que tu ne vas pas bien, on ne va pas juste en parler autour d'un coin de table, on va agir et on va faire des choses et on va prendre le destin en main et on va prendre cette responsabilité-là. Tu vas prendre cette responsabilité-là, mais je vais t'aider, on va t'aider dans ton cercle proche, et on ne l'a probablement pas suffisamment fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est un échec massif, même si... Si j'ai pas de regrets parce que cette décision, c'était la sienne et voilà. Mais si je pouvais revenir dans le passé, je ferais plus attention à ça avec lui. Et donc du coup, j'y passe une grande attention aujourd'hui avec les gens qui m'entourent.
Ok. Et toi, en termes d'expérience, t'as été dans le salariat avant d'entreprendre. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat, justement ?
J'ai eu la chance, dès ma première expérience professionnelle, de côtoyer un des meilleurs entrepreneurs que j'ai jamais connus. Puisque j'ai bossé pendant 3-4 ans, alors c'était entre mes 22 et mes 26 ans, à la sortie d'école, pour un entrepreneur qui s'appelle Stéphane Courby, qui est un entrepreneur français qui a été dans les médias, qui a fait fortune dans les médias à l'époque, et dans la télé, dans la production télé. Et je suis arrivé à ses côtés quand il avait revendu ses activités dans la production télé et qu'il montait plein de nouvelles choses. Et j'ai vécu, j'étais son bras droit pendant 4 ans, donc j'ai partagé son bureau pendant 4 ans, 3-4 ans. Et ça a été absolument dingue parce que j'ai vu les montagnes russes d'un entrepreneur sans avoir 100% la charge mentale sur la tête. J'avais fait une majeure entrepreneur pendant mon école, donc je m'étais rapproché de ces sujets-là. Mais clairement, c'est cette étape-là qui m'a donné envie d'entreprendre. Et puis, au bout d'un moment, on lançait plein d'activités, on créait plein de choses. Et puis, au bout de 3 ans, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et on y va. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Victor, mon associé d'aujourd'hui. Enfin, ça fait 7 ans qu'on est associé. Je pense qu'on a envie que ça dure encore 70 ans.
On va en parler.
Et c'est dans ce cadre-là, puisqu'il il travaillait pour une des filiales du groupe de Stéphane. Et on s'est rencontrés... Voilà, dans ce cadre-là.
Ok, donc ma question d'après, c'était comment t'as rencontré Victor, mais du coup, on en est déjà là.
On était dans la même promo d'école, pour être totalement honnête, mais on ne se connaissait pas, on n'était pas copains, et on s'est rencontrés par notre première expérience professionnelle, et on a toujours eu, je pense, une bonne appréhension de se dire, tiens, lui, c'est quelqu'un, un, de bien, et deux, c'est quelqu'un avec d'intelligent et avec qui on a envie de créer des choses. Et au départ, on s'est rapproché. La naissance de Big Mama, ça a été la naissance du partenariat entre Victor et moi. C'est-à-dire que avant même d'avoir une idée, on s'est dit on va monter une boîte ensemble. Et c'est assez rare puisque dans un duo d'entrepreneurs, il y a souvent peut-être un des deux qui a une idée et puis qui va chercher un partenaire. Nous, on s'est trouvé. Et sur cette base-là, on a construit des idées. D'ailleurs, au départ, plein d'idées qui n'avaient pas forcément à voir avec Big Mama. Et puis, on a petit à petit réduit le scope de notre passion et de nos intérêts. Et on est arrivé sur Big Mama.
Ouais, ça a fité directement. Et vous saviez que vous alliez lancer quelque chose ensemble, quoi.
Exact, exact.
Et il me semble qu'après, vous avez essayé de lancer un business de crêpes. Que vous êtes allé en Bretagne, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter aventure ?
On est en septembre 2012. On est un jeudi soir de septembre 2012. Ça fait 2-3 mois qu'on échange sur plein d'idées, plein de projets avec Victor. Et puis, je me suis entraîné. On était à Odéon, à Paris, dans un café-bar le soir. Et on avait avancé un petit peu sur un projet de chaîne de crêperie. Sur une base de 1, on aimait les crêpes, 2, il n'y avait pas grand-chose qui existait là-dedans, on avait l'impression que c'était un produit que tout le monde aimait bien, mais qu'il n'y avait pas vraiment d'offres intéressantes. Et on a dû prendre 2 ou 3 verres de trop à ce moment-là, et en sortant du resto, on s'est dit, en fait, c'est demain matin, on démissionne et on y va. Et il faut ce déclic à un moment-là, parce que regarder des idées, les faire tourner, voir que ça marche absolument pas, parce que c'est ça la naissance d'une boîte, c'est qu'il n'y a rien qui marche au départ. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir plonger dans la piscine sans avoir aucune idée de si on va savoir nager et s'en sortir. Et ça a été, c'était typiquement ce dîner-là où on s'est dit, allez, on y va. Et demain matin à 10h, à la même horaire, on va tous les deux voir notre patron et on démissionne. On avait tous les deux un bon job, c'était cool. Et le lendemain matin à 10h moins 5, on s'est appelé, on s'est dit, t'es toujours chaud, on y va là, parce que s'il y en a un des deux qui le fait et pas l'autre, on a l'air quand même vraiment con. Et on l'a fait, donc c'était la naissance de notre confiance réciproque. Et effectivement, on a démissionné pour monter cette chaîne de crêperie qu'on a étudiée pendant 2-3 mois jusqu'à la fin de l'année. On a été formé au métier de crêpier. On est parti, on a pris 2 semaines de congé en octobre et on a été formé auprès d'un maître crêpier à Brest, en Bretagne. Pendant une quinzaine de jours, on avait commencé à faire aussi un tour des producteurs en Bretagne. Donc ça, c'était la naissance de ce qu'on a fait ensuite chez Big Mama. On est sorti de là pas démoralisé, alors qu'on y avait tout pour l'être. Il faisait pas beau, on faisait la plonge, on est la moitié de notre stage, on faisait la plonge pour une petite crêperie de Brest. Mais pour autant, on s'est dit que c'était la restauration, que c'était un truc qu'on voulait vraiment faire. Et voilà, on a bossé pendant 3 mois. On a un diplôme de maître crêpier.
Trop bien.
J'ai un peu perdu la main sur tout ça, mais on a eu un diplôme de maître crêpier. Et 2-3 mois après, on s'est réveillé le 1er janvier 2013 en disant, en fait, la restauration, oui, on sait que c'est ça qu'on veut faire. Les crêpes, non. On n'est pas assez passionné de ce produit-là et de cette culture-là pour y aller à 100%. Et inversement, tout ce qu'on adore, c'est la cuisine italienne, c'est la culture, la bouffe italienne. Moi, je suis né à la frontière avec l'Italie, je parlais italien. Ça nous a vachement rapprochés de tout ça. Victor est un passionné de bouffe italienne. Et donc là, on s'est dit, allez, go, et on est parti sur les territoires de Bimola.
Ok, t'es né à Monaco, c'est ça, hein ?
Exact.
Ok, super. Et du coup, comment ça s'est passé, ce lancement de Big Mama ? Comment est-ce que vous avez recruté vos premiers salariés ? Comment vous avez lancé votre premier resto ? Enfin, vraiment du tout début à cette première fois, quoi.
Ouais. Alors, ça a été, avant de recruter les premiers salariés et d'ouvrir des restos, ça a été un long périple. On a mis quasiment 2 ans et demi pour ouvrir notre premier resto. Donc, faut resituer ça dans un contexte où et c'est vrai qu'après on a été assez vite, on a eu une croissance assez fulgurante, mais on a mis beaucoup de temps pour créer les fondamentaux et les piliers
ouais.
Du 1er janvier, on a ouvert notre premier restaurant le 1er avril 2015 et on était full time sur le projet. On avait démissionné, on n'était plus employé de nos précédents boulots le 1er janvier 2013. Donc pendant 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est long. On a eu beaucoup de moments d'incertitude. On a eu beaucoup de moments où on a voulu lâcher le truc, on n'y croyait plus, où on sortait d'entretien, on rencontrait 1000, 2000, 3000 personnes. On ne venait pas du métier. On a été sur le terrain. On s'est fait peut-être 2000, 3000 interviews avec des chefs étoilés, avec des gens du métier, avec des serveurs, avec des cuisiniers, avec des patrons d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours négatifs. Vous lancez pas dans ce métier-là, c'est compliqué. Faire de la restauration, c'est compliqué de gérer le staff, la population. C'est un métier trop difficile. Vous allez travailler le soir, vous allez travailler le week-end. Et donc parfois, vous sortez de là et vous vous êtes fait plomber la tête pendant 1 heure et demie par quelqu'un. Et vous avez 26 ans et vous dites, waouh, est-ce que je suis prêt à mettre ma vie dans tout ça ? Et le fait d'avoir été deux, ça a été génial. Enfin, je suis admiratif des entrepreneurs qui sont seuls parce que la force qu'on dégage avec Victor quand on est deux, elle est absolument géniale. Géniale quand on a des coups de mou, quand on est un peu plus down, bah, l'autre est up et on se soutient. Et puis génial parce que on peut voir les choses en 2 fois plus grand et toute l'importance de l'association, c'est évidemment qu'on partage les mêmes valeurs et la même vision, ce qui était le cas avec Victor. Mais en tout cas, c'est aussi dans les moments durs où on s'est beaucoup soutenu. Donc, on a eu 2 ans assez longs où on a fait beaucoup de choses. La première chose qu'on a faite, c'est on avait une idée assez simple pour Bimama maintenant au départ, c'était on veut faire bon, pas cher et servir avec le sourire. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de révolutionnaire dans tout ça. L'idée n'était pas révolutionnaire. Je ne sais pas, tu as interviewé beaucoup d'entrepreneurs, mais on dit souvent, est-ce que la force, est-ce que l'idée est si importante que ça au départ ? Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus quand tu as interviewé 40 entrepreneurs,
pas
mais c'est souvent des petites idées un peu à la con et assez bêtes. Sunday, on vient de créer une deuxième entreprise, une idée très simple aussi. En tout cas, celle de Big Mama, ce n'était pas du tout révolutionnaire. Elle était, on veut faire des restaurants qui sont bons, d'accord, qui sont accessible, pas très cher, dans un endroit convivial et servi avec le sourire. Tu vas me dire, mais ça, c'est la définition de la restauration. Oui, monsieur. Mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça. Et tout était c'est un métier d'exécution et d'opération, et tout était dans la façon dont on allait exécuter ça. Comment est-ce qu'on fait bon et pas cher ? Et en fait, on a tiré le fil de ça, en premier lieu, par le sourcing. On peut faire bon et pas cher si on arrive à accéder à des produits qui ne sont pas sur le circuit industriel, que tout le monde a. Donc, on va aller chercher des produits de meilleure qualité. Et comment on fait pour aller les acheter moins cher que les autres? Ben, en fait, on va couper les intermédiaires. Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a loué une petite voiture et on a quasiment pendant, je crois, presque plus d'un an, on a sillonné toutes les routes d'Italie. On a été dans toutes les régions d'Italie à la rencontre des producteurs, des petits producteurs. Aujourd'hui, chez Bimama, on travaille avec 80%. C'est des petits producteurs qui ont moins de 20-30 salariés artisanaux.
Super.
On connaît bien, qui sont complètement hors des circuits industriels. Et donc, on a eu cette démarche-là qui était passionnante, qui était incroyablement géniale et passionnante, parce qu'on allait bouffer dans les meilleurs restos d'Italie. Alors, les meilleurs restos d'Italie, c'est des restos parfois où vous mangez une pâte au pomodoro, à la tomate, à 10 euros, donc ça n'a rien de luxueux. Mais on faisait le tour des cuisines à la fin des repas qu'on faisait et on allait voir les chefs en disant on vient de manger la meilleure pâte à la tomate de notre vie, où est-ce qu'on peut trouver cette tomate-là? Et en fait, on nous a ouvert les portes et les mecs nous donnaient les contacts de leurs producteurs, etc., etc. Et on a tissé tout un énorme écosystème comme ça. On se cassait la gueule au départ. On toquait à la porte de ces producteurs-là. On avait 26 ans, on en faisait 18 et on disait super, on veut ouvrir un resto à Paris, est-ce qu'on peut bosser avec vous? Les mecs nous regardaient genre mais vous êtes qui? Vous êtes qui? On disait non mais on veut vraiment bosser avec vous. Donc là les mecs refermaient la porte et comme on est un peu insistant, on revenait et on disait non mais on veut vraiment bosser avec vous. Et puis petit à petit en fait on a créé des liens dingues. Je me souviens de la première fois on était chez Lorenzo Bagatto qui est un de nos fournisseurs de prosciutto di San Daniele, on est dans le nord-est de l'Italie. Le mec nous a à moitié fermé la porte au nez en disant j'ai autre chose à faire. Et puis, à force un peu d'insister et à rappeler le chef qui nous avait introduit et qui a fait un. On a fini par dormir chez lui 2 jours et on a commencé à connaître toute sa famille et c'est devenu un copain. Donc, c'est génial. Donc, on a fait ça pendant plusieurs mois. On a 180 producteurs aujourd'hui avec qui on travaille en direct. Et on a fait quelques expériences terrain, parce qu'on n'avait jamais opéré de resto. Donc, on a opéré une petite cafétéria sur un campus. Puis ensuite, on a opéré un resto saisonnier à Gordes, dans le sud de la France, pendant 4-5 mois, en 2014. Ça nous a appris le métier. On a fait toutes les conneries du monde. C'était probablement le restaurant le moins bien opéré au monde. Et il y avait une cool ambiance. Et en fait, on s'est aperçu d'un deuxième pilier très fort après les produits, c'est que l'âme et l'énergie... Et ce que tu mets dans, ce que tu transmets dans les équipes et dans la façon dont les gens travaillent ensemble, c'est 80% du métier d'un restaurateur. Et nos clients venaient, il y avait déjà la queue dans ce restaurant-là. et pour autant, on n'était franchement pas très bon d'un point de vue opérationnel, mais il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne vibe, il y avait une bonne âme dans le restaurant. Et ça a été très fondateur sur la philosophie qu'on a voulu créé derrière chez Lima. Indépendamment de ça, on a levé des sous parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent. Donc, on a levé des sous auprès d'investisseurs pour ouvrir notre premier restaurant. On a commencé à chercher un lieu à Paris. On a mis des mois et des mois et des mois à trouver un lieu qu'on n'a jamais trouvé parce qu'on n'avait pas de caution. C'était extrêmement difficile. Et on a fini par signer Istmama. C'était un resto qu'on avait d'ailleurs vu il y a très longtemps, qui était complètement pourri. Istmama, je ne sais pas si tu vois comment il est foutu, mais c'est un espèce de grand couloir avec.
Ouais, je suis déjà allé.
Et tout Paris avait refusé de racheter ce restaurant-là. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On le signe et on y va, ou on abandonne et on revient salarié. Et puis, on a eu un coup de folie. On s'est dit allez, on y va. Et en fait, c'est un restaurant génial ici, mais c'est un des meilleurs restaurants qu'on a aujourd'hui dans le groupe. Donc, comme quoi, parfois, il faut quand même suivre ses instincts et il faut suivre ses instincts et pas mettre trop de rationnel au départ dans un certain nombre de choix, c'est une bonne boussole.
Puis c'est impossible de revenir salarié après avoir vécu autant de choses en si peu de temps, d'avoir sourcé des centaines de producteurs en Italie, d'avoir commencer à bâtir un réseau aussi de hyper qualitatif par rapport à toute la restauration italienne. C'est impossible de se dire après tout ça, est-ce qu'on revient salarié ? C'est impossible.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on n'a pas lâché le steak et qu'on a tenu bon. Mais quand ça fait un an et demi que tu es sur ton projet et que tu n'as pas de revenus, et qu'il faut vivre, il y a un moment où tu te dis, bon, bah, soit j'ouvre, soit je vais ouvrir, soit je vais revenir salarié parce que c'est que tu es rattrapé par la réalité de la vie, quoi. C'est bien beau de vouloir monter des boîtes, mais il y a un moment où il faut gagner gagner sa vie. Donc
c'est clair.
Je me souviens très bien, il y a eu des moments où on avait vraiment la tête dans la terre et on se disait, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, bah, ça valait le coup de tenir parce qu'on a vécu une aventure de dingue. Donc.
Et du coup, pour revenir à mes questions, justement, comment est-ce que vous avez recruté vos premiers salariés? Parce qu'il me semble que le personnel, il est à 100% italien. Donc, vous êtes allé chercher les gens directement en Italie en termes de recrutement.
Alors déjà, le personnel n'est pas 100% italien, mais c'est vrai qu'il y a une italianité très forte dans notre culture.
Okay.
On a, je crois, 38 nationalités chez Big Mama, donc on est, mais c'est vrai qu'il y a une identité italienne qui est très forte. Quand est-ce qu'on a recruté notre premier salarié? C'est une bonne question. C'était à Gordes, dans notre restaurant saisonnier qu'on a fait en 2014. C'est Ciro, c'est notre chef. On avait mis une annonce sur internet en disant on cherche un chef italien, comme quoi parfois ça part de rien, hein, sur 2-3 blogs. Et puis il y a Ciro qui avait 24 ans qui a répondu et on a pris un café un jour, qui est un napolitain, on bosse toujours avec lui, hein, 7 ans après, donc on se connaît par cœur. Mais la première fois qu'il est venu, on n'a pas eu un coup de foudre. Je crois que l'entretien a duré 10 minutes et au bout de 10 minutes, on lui a raconté sa vie. On lui disait, bon, en fait, on s'en fiche de ta vie. Nous, ce qu'on veut, c'est goûter ton tiramisu et on veut voir si c'est ton chef. Et il avait assez mal pris, il s'était levé, il s'était barré. Et on s'était arrêté là. Et il se trouve que 3 mois après, on était à la veille, enfin, à quelques jours, semaines avant d'ouvrir notre restaurant saisonnier qu'on avait eu par opportunité. Et là, on cherchait un chef et on se dit, bah, on n'a pas d'idée. Donc, on va rappeler Ciro, qu'on avait rencontré 3 mois avant, et on va lui dire, est-ce que t'es chaud pour venir avec nous? Et je sais pas, le hasard et la magie de la vie a fait qu'à ce moment-là, il était libre et qu'il a dit, il a pris le pari, et il a dit, OK, je viens avec vous. Et derrière, ça a été le chef exécutif du groupe, et il gère 500 personnes aujourd'hui chez Big Mama. Donc, c'est comme quoi les histoires, elles partent pas de grand chose. Donc, c'était notre premier salarié, et on a recruté la première équipe à Gordes, un peu par copain de copain. Ciro, qui est napolitain, a recruté son cousin qui était pizzaiolo, puis lui-même a recruté son copain qui était commis de cuisine, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, dans l'équipe fondatrice de Gordes, c'était en 2014, aujourd'hui, il y a encore, je crois, 50% des gens qui sont toujours chez Big Mama et qui sont tous à un poste de chef, de manager ou de directeur ou de... Donc, c'est drôle parce que quand on regarde la photo de l'équipe en 2014, je me souviens d'Enrico qui est notre patron des opérations en Angleterre, qui est un marché très difficile dans lequel on a 300 salariés, très compétitif. C'était un runner qu'on avait recruté à Gordes et qui était venu avec sa guitare autour du cou et qui était venu pour faire un job d'été. Et 5 ans après, il est patron de 300 personnes dans la boîte. Donc, c'est des belles, belles aventures.
Dingue. Ce qui ressort quand on voit Big Mama, c'est vraiment la culture d'entreprise. Comment est-ce que vous avez réussi à insuffler en fait cette culture? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place, ou est-ce que vous aviez une vision très précise de ce que vous aviez envie de faire justement avec Big Mama? Comment ça s'est passé?
Je dirais qu'au départ, ça s'est fait assez naturellement. C'est difficile d'être à la veille d'une création ou en tout cas d'une aventure et de dire « moi, je veux que la culture d'entreprise, ça soit ça ». La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, c'est quelque chose qui se vit. Donc, on n'avait pas forcément une vision très claire de quelle allait être la culture d'entreprise, et Dieu sait qu'elle est importante chez Big Mama. Et c'est plutôt dans un deuxième temps où on a beaucoup façonné, travaillé, ritualisé la culture d'entreprise. Ça, j'y reviendrai peut-être comment. Dans un premier temps, ça s'est fait plutôt sur qui on est, sur nos valeurs, sur ce qu'on avait envie d'être en tant que personne. Et parce que comme c'est des petites équipes, bah, en fait, on insuffle beaucoup de choses autour de nous. Et ça, c'était, on avait envie de monter une entreprise dans laquelle on avait envie de prendre du plaisir. Ça, c'était hyper important. On est venu dans la restauration qui n'était pas le métier avec le plus gros potentiel de développement, de croissance, qui était un métier difficile, mais on l'a fait par passion et on l'a fait par plaisir. Et ça, je pense que ça a été un des premiers socles de la culture d'entreprise, c'est que on vient chez Big Mama parce qu'on essaie une boîte de passionnés et on vient parce qu'on a envie de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. La joie, ce fameux joyeux bordel dont je parlais, l'âme, la joie, l'énergie qu'on dégage, il est né de ça, il est né de ces premiers temps. Ensuite, petit à petit, quand on grandit dans l'entreprise, effectivement, on met en place un certain nombre de rituels qui permettent d'asseoir ces cultures d'entreprise. Et une culture d'entreprise, pour moi, elle est basée sur des valeurs, elle est basée sur un socle de valeurs. C'est quoi une culture d'entreprise ? C'est rien de plus que quelques valeurs qui sont un socle commun de comportement, de pensée, ou en tout cas de guide pour tout ce qu'on fait et tout ce qu'on veut véhiculer dans l'entreprise et à l'extérieur. Chez nous, il y a 4 valeurs. Il y a l'excellence. J'en ai un peu parlé parce que je parlais de fait d'ouvrir les meilleurs restos au monde. C'est vrai que ça fait partie de notre culture. Il y a la méritocratie. J'en viens d'en parler aussi quand la moitié du staff du premier resto est aujourd'hui ça, la promotion interne, le fait que on crée une boîte dans laquelle un terrain de jeu dans lequel chacun rentre et où la force collective du groupe, la force collective de l'équipe est au service du développement individuel de chacun. Tu vas rentrer chez nous et grâce aux autres, grâce à l'équipe, tu vas grandir. Et tu vas te développer individuellement, tu vas apprendre et tu vas évoluer. Et je dis très souvent en meeting ou en séminaire que le jour où vous cessez d'apprendre chez Big Mama, il faut partir. Pour nous, c'est un truc, la méritocratie, ouvrir les portes, la promotion, l'ascension sociale qu'on peut proposer par la restauration. En ouvrant ces portes-là, c'est probablement la valeur la plus incarnée, la plus forte chez Big Mama aujourd'hui. Et il y a peu de secteurs qui peuvent permettre ça. Donc ça, c'est la magie de la restauration. La magie de la restauration, c'est que tu peux démarrer en tant que runner, quel que soit ton background, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ta classe sociale, quelle que soit ta religion, ta race, on ne va pas regarder d'où tu viens, mais en revanche, on va ouvrir les portes à ce que tu puisses grandir, si évidemment tu te donnes pour y arriver. C'est-à-dire, c'est la force du travail, c'est la force de l'engagement, c'est la force de la passion. Mais donc cette valeur-là, elle est fondamentale dans notre culture d'entreprise. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a un turnover qui est assez faible dans le staff. C'est ce qui fait que on continue à ouvrir des restaurants, à avoir des projets, parce que la croissance de l'entreprise, l'histoire de croissance de l'entreprise nourrit la croissance des hommes. Tu peux pas grandir si j'ouvre pas un autre resto. Sinon, comment tu fais pour prendre le job de ton boss? Tu peux pas, en fait. Tout l'intérêt d'ouvrir un resto régulièrement, c'est qu'en fait, on dit, les gars, on ouvre un nouveau resto, on va prendre les talents de l'ancien resto, on va les mettre dans un nouveau, etc. On va faire monter tout le monde d'un cran. Et donc, l'histoire de croissance, on dit souvent, ah, mais en fait, grandir et grossir, j'aime plutôt le mot grandir que grossir, bien évidemment, c'est pas du tout contre-intuitif et paradoxal avec maintenir une culture d'entreprise très forte. Justement, elle permet de construire cette culture d'entreprise-là. En tout cas, à ce niveau-là. La troisième valeur, c'est l'authenticité. On vend un voyage en Italie hyper authentique par les produits, par les hommes, par la personnalité. On est qui on est, Ah, c'est un peu le truc de McDo, venez comme vous êtes, mais c'est un peu ce qu'on fait chez Big Mama.
Prenez les gens comme ils sont, quoi.
Et la quatrième valeur, c'est l'entrepreneuriat. On a toujours eu une double casquette chez Big Mama, c'est qu'on est on a une âme de restaurateur et on a un mindset d'entrepreneur. Et donc, on a le droit à l'erreur, on mise énormément sur l'agilité, sur le fait de rebondir, de construire des choses dont on est fier. Ça, c'est hyper important. C'est une des valeurs qui nous guide dans tous les choix qu'on fait. On fait rien dont on n'est pas fier, même si c'est bien pour le business, même si c'est bien pour ça va grossir nos chiffres. Et voilà, donc cette culture d'entreprise-là, elle est basée sur ces valeurs. Et puis après, il y a un certain nombre de rituels qui vont des briefings dans les restaurants avant les services, à des lives, on communique énormément. Pendant le Covid, ça a été quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Quasiment toutes les semaines, je fais un live avec toutes les personnes de ma boîte, donc à distance, parce qu'on est à distance, où on est 100% transparent sur nos faiblesses, nos doutes, nos envies, nos réussites. Où est-ce qu'on en est d'un point de vue financier? Est-ce qu'on galère? Est-ce qu'on galère pas? La performance, les projets, etc., etc. Donc voilà, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Ouais. C'est comme manager. Le management prend beaucoup de temps, beaucoup d'écoute.
Très clair. Il y a pas de secret. On va maintenant faire un petit saut dans le temps. Alors Big Mama aujourd'hui c'est dispo. Il y a des restaurants à Paris, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Londres et à Madrid. L'année dernière, on a eu ce qu'on a tous vécu, hein, la Covid. Quel a été l'impact justement de la Covid sur ton business et qu'est-ce que ça a provoqué cette Covid?
Alors l'impact, il a été colossal. Comme tu peux t'en douter, colossal vers le bas et colossal vers le haut. Et ça a été la bonne nouvelle aussi, c'est que on a eu une phase de destruction-création absolument très intense. Destruction parce que du jour au lendemain, on a fermé à l'époque 12 restaurants, on avait 12 restaurants, aujourd'hui on en a 14, mais on a fermé 12 restos du jour au lendemain. 1200 personnes dans les équipes qu'il a fallu protéger, sécuriser, fermer 12 cuisines, je ne sais pas combien de frigos, je ne sais pas combien, enfin ça a été une chose qu'on n'avait jamais vécue, enfin que personne n'avait vécue, mais on avait, il faut que tu dises, ça faisait 5 ans qu'on pilotait un bateau qui était en ultra croissance, on gérait que des problèmes, beaucoup de problèmes, mais que des problèmes positifs, que des problèmes tirés vers le haut, et on a dû changer complètement de braquet, de direction, et gérer du jour au lendemain une décroissance, c'était 0 € de chiffre d'affaires. Donc on s'est pris un gros coup dans la tronche, et ce qui a été incroyable, c'est qu'on a eu, enfin j'ai vu une capacité des équipes autour de nous à se mettre dans un mindset d'entrepreneur en disant, les gars, on va sauver le bateau. On va pas couler. Et donc, ça s'est passé par plusieurs choses. C'est passé par, un, se protéger. Donc, on s'est énormément protégé d'un point de vue financier. On a fait énormément attention à nos dépenses. On a fait énormément attention à notre staff. On s'est protégé. Et dans un deuxième temps, on s'est dit, nous, on n'a pas du tout la philo. Enfin, on n'était pas du tout prêt à s'asseoir sur la chaise et à attendre que ça se passe. C'est pas qui on est. Et c'est pas seulement Victor et moi, c'est vraiment, c'était tout le monde dans l'entreprise. Et donc là, on s'est dit, on va regarder tout ce qu'on n'a pas regardé depuis le début de l'aventure et tout ce qu'on peut faire, même si on pensait qu'on n'allait jamais pouvoir le faire. Donc on s'est mis à regarder du click and collect, on s'est mis à regarder de la livraison, on s'est mis à regarder des choses qui étaient inimaginables 3-4 mois avant le Covid. Jamais on aurait fait des choses, probablement. Mais on l'a fait dans un mode entrepreneur et dans un mode artisanal qui nous ont dit, on le fait à partir du moment où ça match nos valeurs et ce qu'on veut faire. Et là où ça a été assez excitant, c'est qu'on s'est aperçu que typiquement sur la livraison, on pouvait faire de la qualité, on pouvait continuer à bosser avec notre écosystème de producteurs, avec notre écosystème là, aussi sur dans la livraison, on n'avait pas obligé de remettre tout ça en question. Et donc, on a transformé petit à petit une approche très défensive qui était, on fait de la livraison parce qu'on n'a pas le choix, dans une approche beaucoup plus offensive, beaucoup plus excitante. En fait, on va construire quelque chose. beaucoup plus long terme. Et donc est venue l'idée de créer Napoli Gang, qui est notre marque de livraison. Et on s'est dit, et là on s'est retrouvé complètement aux premières heures de Bimama. On ouvre notre première cuisine, on ouvre notre premier resto dédié à Napoli Gang, puis notre deuxième, et puis on l'a fait en faisant des erreurs, et puis en fait notre recette de pizza qui marchait dans les restos, elle marche plus en livraison, et donc on repart de zéro, etc. Donc on s'est mis complètement dans un mindset, on n'a plus de boîte, donc on en recrée une autre, quoi. Et évidemment avec beaucoup plus d'aide dans le sens où on partait pas de zéro, on avait des équipes, on avait des produits, on avait tout ça. Mais donc on a fait ça, superbe énergie en interne pour déployer en quelques semaines, en quelques mois. Et puis on a lancé quelques projets. Sunday, notre application de paiement est partie de là.
Ouais, on en parlera aussi. Ouais.
Est partie de là parce que c'est pendant le premier confinement qu'on a développé les premières bribes de la solution qu'on a mis en place en juin-juillet quand on a réouvert l'année dernière.
Trop cool.
Et voilà.
Ok. Pour revenir à Napoli Gang, du coup, c'est ce qu'on appelle une dark kitchen. C'est quelque chose qui était assez...
Nous, on appelle ça une kitchen. Parce que la dark, on voit pas trop ce que ça a de dark, mais en tout cas chez nous, parce que c'est 100% des cuisines ouvertes. Mais c'est les kitchens de livraison.
Ouais, exactement. C'est plus un terme qui est utilisé, on va dire, notamment dans les pays asiatiques. Est-ce que tu penses que ce type de cuisine justement va se développer dans les années à venir?
Nous, on fait de la livraison de pizza globalement, pour être très 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 concret. C'est un marché qui existe depuis 40 ans. La livraison de pizza, quand tu avais 15 ans et que tu voulais mettre un match de foot à la télé, tu te faisais livrer des pizzas et t'appelais Pizza Hut et Domino's Pizza. C'est un marché qui est vieux comme le monde. Donc, on s'est positionné sur un marché qui n'est pas du tout né avec le Covid. Donc, ma vision du marché dans lequel nous, on est, elle est très claire. Elle va totalement continuer après le Covid parce que c'est un marché qui existait, qui est déjà très important avant la pandémie. Après la pandémie, elle a ouvert plein de nouveaux usages et de nouveaux types de cuisine qui se sont mis justement en livraison. Il y en a un paquet d'entre eux, je ne suis pas certain que ça se pérennise dans le temps. Je pense que c'était juste un effet pansement. Donc je serais assez prudent sur le fait de dire que est-ce que des restaurants étoilés qui se sont mis à faire de la livraison pendant le Covid vont continuer à le faire à la réouverture? Je ne suis pas sûr, probablement pas. Mais en tout cas, les gros marchés qui étaient là avant, oui, il y a eu beaucoup d'usages qui se sont développés. Et c'est pour ça que nous, on a envie de prendre une place de leader sur ce marché-là. Non pas parce que c'était une opportunité pandémique, on va dire, mais parce que, comme on l'a fait il y a 5 ans avec Big Mama, on a envie d'aller mettre un gros coup de pied dans la fourmilière d'un marché qui est vieux comme le monde et qui s'est totalement industrialisé avec le temps, avec des marques américaines qui proposent des produits qui sont de mauvaise qualité. Et donc, on a envie de venir et de mettre un gros coup de frais, de sang neuf et avec une marque beaucoup plus moderne, beaucoup plus engagée, de qualité. Et on pense qu'on a un vrai rôle à jouer dans ce milieu-là, comme on l'a pu le faire il y a 5 ou 6 ans dans la restauration physique.
Ouais. Ok, super. Pour finir sur Big Mama, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques chiffres Big Mama aujourd'hui, ce que ça représente?
On a 25 restos aujourd'hui. On en a 14 qui accueillent des clients. Donc ça, c'est les grandes trattoria Big Mama qui sont... il y en a 11 en France, 2 à Londres, 1 à Madrid. On a pas mal de projets de développement dans le futur, donc on va continuer à développer tout ça. On a une dizaine de cuisines qui accueillent pas des clients, qui sont des cuisines de livraison pour Napoli Gang. On ouvre Madrid dans quelques jours. On sera présent dans 3 pays. On a 1200 salariés. Et voilà, et on continue.
C'est déjà très bien.
Ouais, ce qui est paradoxal, c'est qu'on sort d'une année très très difficile J'espère que ça, ça aura été l'année la plus difficile de notre vie de restaurateur. Et pour autant, on n'a jamais été aussi confiant dans nos équipes et dans notre groupe. Et donc, on se projette encore vraiment très longtemps dans l'aventure Big Mama. Et tant qu'on prendra du plaisir et qu'on s'éclatera à faire ce qu'on fait, on sera là et on essaiera de partager cette petite contagion du bonheur avec tous ceux qui vont nous rejoindre en interne et avec tous nos clients, bien sûr.
Trop cool. Maintenant, on va parler assez rapidement de Sunday, qui est un projet qui a été lancé assez récemment. Vous avez déjà levé plus de 20 millions d'euros. Je pense que ça fera l'objet d'un autre épisode dans quelques mois, mais est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ce projet ?
Bien sûr, c'est un projet qui est né l'année dernière pendant le premier confinement. Ça faisait quelques mois et voire quelques années qu'on avait cette idée de révolutionner le paiement dans les restos, qui était un truc qu'on vivait à la fois en tant que client et en tant que restaurateur. On avait cette double casquette et on passe notre vie dans les restos et on voyait que chaque personne de notre staff passait 10 ou 15 minutes à la fin de chaque service à devenir caisse enregistreuse et à processer des paiements. Et inversement, on voyait certains de nos clients qui devenaient fous parce qu'ils levaient la main 15 fois avant d'avoir l'addition et ils reperdaient 5 minutes avant qu'on leur ramène la machine à carte, etc., etc. Et donc là, on s'est dit, il faut digitaliser. On n'aime pas trop digitaliser le métier de la restauration, paradoxalement, parce qu'on pense que c'est un métier qui est très authentique et l'authenticité, elle est très importante chez nous. Mais pour autant, ce moment-là de la restauration, il était vraiment affreux. Et donc de façon très, très artisanale, on avait un petit peu plus de temps pendant le premier confinement et la fermeture des restos. On s'est mis à développer une solution en interne qui était de pouvoir scanner le QR code qui était au milieu des tables et tout de suite, tu as accès à l'addition et en moins de 10 secondes, tu peux payer ton addition, la partager avec les gens qui sont autour de ta table et le lever et partir. Et on l'a mis en place pendant 6 mois quand on était ouvert l'année dernière dans une douzaine de restos dans 3 pays. Et à la fin de l'année, on a fait le bilan et on s'est dit, tiens, c'est quand même vraiment assez incroyable. Il y a 60 et 80% d'usage dans nos restos, 60 et 80% de clients qui l'utilisaient, avec des super retours clients. Et ça avait augmenté de 30 à 40% les pourboires de notre staff. Ça facilitait la caisse à la fin du service, etc., etc. Là, on s'est dit, non, mais ce truc-là qui était au départ prévu pour être un outil interne de Big Mama, en fait, il y a vraiment un potentiel pour le mettre au service de tous les restaurateurs et de créer un usage hyper positif pour nos clients. C'était un peu le save time for what matters. C'est genre, je vais plus passer du temps à attendre un machin, je vais passer du temps à prendre un dessert, à prendre du temps pour mon café, machin, parce que je suis plus stressé par le truc du paiement. Et donc, on a commencé à en parler à plein de potes restaurateurs qui nous ont dit, non mais attends, le truc est génial, moi j'aimerais l'utiliser, etc. Enfin, ça c'est monté comme ça. Et puis, on en a parlé à des mecs de la tech, qu'on connaît, des copains, des écosystèmes. Ils ont dit, mais en fait, c'est génial. C'est une idée très simple, mais c'est... Et puis, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, on a agrégé un écosystème dingue autour de ce projet-là. À la fois des actionnaires de Big Mama, des fonds de fintech aux US et des mecs géniaux dans l'hospitality, dans la restauration aux États-Unis, en Europe. Et on a levé effectivement 25 millions de dollars. Ça s'est fait très rapidement en agrégeant toute cette force vive autour de nous. Et puis là, c'est le début de la fin. C'est l'aventure qui recommence depuis le zéro, depuis le début. Et ça va vite parce que on pense qu'il faut aller vite sur ce marché. Donc on est déjà en l'espace de quelques semaines déjà une équipe de 60-70 personnes et avec une traction super forte. Il y a une demande des restaurateurs hyper forte. Et donc voilà, c'est passionnant, c'est un nouveau métier pour nous et en même temps, on a cette casquette de restaurateur qui nous apporte, je pense, une vraie légitimité à déployer cette solution.
Exactement.
Donc voilà, on en reparlera plus longuement, mais ça s'est fait comme ça.
Et enfin ouais, super impressionnant aussi l'exécution super rapide. Vous avez eu un besoin, vous avez répondu à ce besoin, ensuite vous vous êtes rendu compte que ce besoin, il n'était pas que chez vous. Et au final, d'ouvrir ce produit à tous les restaurateurs, c'est assez ouf. Et effectivement, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Je passe à la quatrième partie du podcast. sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui t'anime tous les jours ?
Change people's life with pizza.
C'est... Super.
Je te réponds par notre motto interne. On a rarement communiqué là-dessus à l'extérieur, mais c'est notre baseline interne chez Big Mama. C'est le change people's life with pizza. C'est ce qui me rend fier et ce qui m'anime quand je me lève le matin. Je suis le patron d'une boîte de 1200 personnes. Je ne sais pas faire ce métier-là. Je l'apprends tous les jours. Mais parfois, je fais des erreurs. Parfois, je fais des choses bien. Mais ce qui est sûr, c'est que avoir la capacité de changer la vie, déjà ma vie à moi, et de changer la vie des gens qui m'entourent, c'est ça qui me rend fier. Et la chose que je regarderai dans 10 ans et que je retournerai derrière et que je dirais c'est quoi qui a été incroyable, c'est d'avoir changé la trajectoire de 1000, 2000, 3000, 5000 personnes.
Trop cool.
Et pour ça, être entrepreneur, ça, on peut vraiment le faire en étant manager aussi, salarié dans une entreprise, mais ça n'a pas de prix.
Super. Peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui ?
Mon associé, il continue de m'inspirer depuis 7 ans, ce qui est pas une faille. parce qu'il a... Ça fait 7 ans qu'on est entrepreneur et il a toujours la même énergie d'entrepreneur, le moteur, l'envie d'aller plus loin, plus haut, plus vertueux. Donc il m'inspire au quotidien là-dessus. Et ma femme. Ma femme, parce qu'elle a... On a déménagé à Madrid. Je vis à Madrid depuis quelques mois. Quand on a ouvert Big Mama, on a ouvert un premier restaurant Belmondo à Madrid en septembre dernier. On est venu s'installer ici pour lancer le pays et pour lancer Big Mama ici. Ma femme est une femme extraordinaire. Elle avait une super carrière chez L'Oréal. Elle était un top talent là-bas et elle a accepté de tout quitter pour suivre ce chemin-là. Et elle l'a fait d'une manière hyper bienveillante, hyper accompagnante. Et c'est une boussole, c'est un socle pour moi. Et je pense que si elle n'était pas là, je ne serais pas du tout... qui je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et en tant que patron d'entreprise. J'ai la chance d'être... Tout ça pour dire que j'ai vraiment la chance d'être inspiré par probablement les deux personnes qui sont les plus proches de moi aujourd'hui dans mon cercle, à la fois professionnel et personnel.
Ouais. Oui, tu côtoies au quotidien, enfin aussi bien en physique qu'à distance. Quoi.
C'est vraiment cool d'être inspiré par ces gens-là, parce que je les vois tous les jours et donc c'est... C'est pas comme si j'étais inspiré par un mec que j'ai jamais vu de ma vie.
Oui, c'est clair. C'est clair. Et puis, dernière question pour cette petite partie. C'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la food ?
Alors, je vais en donner plein à la volée, comme ça. Vivre ses rêves, mais les vivre vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez un projet dans la food, vous voulez ouvrir un resto, tester un truc... Il ne faut pas ouvrir un micro-truc en disant « je vais tester le modèle, je vais ouvrir un tout petit resto dans un coin et je vais voir si ça marche. » Ben non, en fait, si ça plante, vous allez toujours vous dire « ah oui, mais ce n'était pas ça que je voulais ouvrir. En fait, je voulais ouvrir un gros truc hyper ambitieux. » Ouvrez ce que vous voulez ouvrir. Parce que c'est ça qu'on a fait et je pense que ça a très bien marché. Première chose. Deuxième chose, ne cherchez pas trop à éduquer les clients, les consommateurs dans la food. C'est très, très compliqué de devoir changer les habitudes, éduquer les gens sur un nouveau type de restauration. Combien de fois j'ai vu des projets hyper talentueux vouloir lancer des concepts de frozen yogurt en France parce que tu comprends, ça cartonne aux États-Unis et donc c'est génial, ça va cartonner en France. Non, en fait, en France, il n'y a personne qui bouffe du frozen yogurt. Et donc, avant même de savoir si toi, tu vas réussir et que tu as un bon produit, une bonne marque, il va falloir éduquer tes clients à manger des frozen yogurt, une fois que tu as réussi à faire ça, à faire en sorte qu'ils viennent chez toi et pas chez les autres, etc. Nous, on a été dans des gros marchés. On a été dans l'italien, on fait du burger, c'est des gros marchés et on a toujours une envie d'être 15% meilleur que les autres, 15% moins cher. Et c'est pas forcément la démarche que tout le monde doit avoir, mais en tout cas, ça a été une démarche assez payante parce que je trouve que contrairement à de la tech, contrairement à la cuisine, c'est quelque chose de très traditionnel et de vouloir éduquer les gens là-dessus, c'est compliqué. Voilà, et un dernier truc dans la food, c'est que c'est n'allez pas dans un type de cuisine ou dans un projet dans lequel vous n'êtes pas 100% passionné. Je l'ai expérimenté un peu avec la crêpe au départ. C'est un métier qui est tellement prenant, ça demande tellement d'énergie. Vous allez vivre, vous allez parler, vous allez dormir, vous allez sentir, vous allez passer vos nuits, vos soirées, vos week-ends. C'est un métier où on bosse quand tout le monde est en vacances, quand tout le monde ne bosse pas, vous bossez. Il faut que vous soyez passionné jusqu'au bout des ongles parce que sinon on ne tient pas. Et ça doit être le premier critère. Moi, c'est quand je regarde des projets de food qui se lancent et que parfois j'accompagne, c'est le premier truc de loin que je regarde.
Ok, très clair, de très bons conseils. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec des petites questions rapides. La première, c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Je suis complètement dans la merde parce que je déteste lire.
ça peut être un livre de cuisine. Hein.
Ouais, sincèrement, voilà, c'est drôle cette question parce qu'en plus je suis très 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 honnête là-dessus. Je lis pas du tout. Je lis beaucoup la presse. Je suis beaucoup les actualités. J'aime bien me nourrir de ce qui se passe dans le monde et donc je suis un gros lecteur d'actualités qui m'entourent. Mais
non, il n'y a pas de souci.
Non, évidemment le dernier livre de Big Mama, notre dernier livre de Big Mama qui est sorti l'année dernière.
Ok. Est-ce que tu as un film à me conseiller qui t'a plu récemment?
C'est marrant. Avant que tu dises récemment, j'allais citer les Goonies.
ça peut.
Ouais, les Goonies, je sais pas. C'est plus une boutade, une anecdote, parce que j'en parlais hier soir. Les Goonies, c'est comment un groupe de jeunes partent à la découverte d'un trésor et comment ils vivent leur rêve. C'est un Spielberg qui a, je sais pas, maintenant, je sais plus, il a dû avoir 30 ans de vie, c'est un vieux, vieux film. Mais c'est génial comme quoi ces gars-là, parfois je me reconnais dans ces mecs-là, ils partent et ils vivent leur rêve et les Goonies. Tous les entrepreneurs, regardez les Goonies et c'est un spécial, mention spéciale à quelques copains qui m'entourent parce qu'ils se reconnaîtront dans ce film-là.
Carrément. C'est quoi ta musique du moment ?
Rafael Acara, A far l'amore cominciato. Faire l'amour, c'est bien, ça fait du bien. Je sais pas si c'est très politiquement correct, tes podcasts, mais
en tout cas, on s'en fout.
Au-delà de ce message positif, c'était notre musique de mariage. Je me suis marié en Sicile avec ma femme et c'est resté une musique qui me donne une vibe géniale. Et c'est un petit rituel aussi que j'ai avec mes enfants où parfois on met la musique à fond dans le salon et on se met tous à danser. Et typiquement, cette vieille musique disco des années 70-80 italienne, elle fout une grosse patate.
Ouais, bonne vibes. Avant-dernière question, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ?
Quel est l'entrepreneur que... Je vais t'en poser une, moi. Quel est l'entrepreneur que tu as interviewé depuis 3 ans qui t'a le plus inspiré ?
Il y en a potentiellement deux. Il y a Anthony Bourbon de Feed. De par son parcours où il est vraiment parti de rien et il a réussi à monter une sacrée boîte. J'admire son état d'esprit et sa manière d'exécuter aussi. Et un autre, mais qui va être plus vintage, on va dire, c'est Jacques Seguela. Voilà, qui est un peu une légende de la publicité, une légende vivante de la publicité. Et forcément, de par son parcours, toute sa vie, en fait, elle est hyper inspirante. Et ça, forcément, c'était une rencontre incroyable.
Ok, et ben je vais écouter les deux podcasts.
Carrément, je t'invite à les écouter. Et ma dernière question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode ? À part Victor, bien sûr.
Non, j'allais dire Victor pour Sunday. Pour Victor pour Sunday, ce sera intéressant d'ici, je pense, quelques mois que tu l'interviews. Il est très impliqué. y compris opérationnellement dans l'aventure. Donc c'est il y a, comme je suis ça prêt, ben il y a énormément, enfin je pense que ça sera très riche d'enseignements. Et je peux te citer aussi un autre copain qui s'appelle Pierre Juen, qui a monté plusieurs boîtes. C'est vraiment un entrepreneur dans le sang et dans l'âme, et qui développe aujourd'hui Patika. C'est une marque de cosmétiques bio avec une démarche de qualité et de sustainability hyper forte. Et c'est un mec vraiment intelligent et inspirant. Et je pense que ce serait hyper enrichissant pour tous ceux qui nous écoutent.
Super. Bah, un grand merci, Tigrane, pour cet échange. C'était super cool.